Chapitre 4. Danger des déguisements. Edgar, presque pétrifié, resta seul dans le petit bâtiment. Il les regarda sans descendre, sans faire un mouvement, jusqu'à ce qu'enfin un ouvrier s'approcha pour emporter l'échelle. Alors il sortit et courut après la voiture, quoique son intention ne fût pas de la suivre et que même il n'eût pas de projet arrêté. Cependant, la vue du major, qui suivait le même chemin, le lui fit quitter avec dépit et prendre la route la plus courte pour aller à Beech Park. La colère le suffoquait. À peine pouvait-il respirer. Cependant, il avait peine à se rendre compte du motif de sa douleur, lorsque tout à coup, se rappelant le sourire gracieux avec lequel Camilla venait d'accepter le bras du major Sherwood, il joignit, sans le vouloir, ses mains l'une contre l'autre en s'écriant « Oh, trop heureux major !» Averti par cette exclamation du véritable état de son cœur, « Quoi, de la jalousie » s'écria-t-il. « Suis-je donc réduit à cette passion humiliante ? Suis-je capable d'aimer sans confiance, assez malheureux pour conserver un vain espoir ? Non, je ne serai point ainsi l'esclave de mes penchants. Je ne sacrifierai point à mes désirs mon honneur et ma raison. Son cœur seul ne suffit pas au mien. » Je veux être l'objet de sa délicatesse aussi bien que de sa préférence. La jalousie n'est point faite pour mon âme. » Alors il craignit d'avoir fait un choix peu judicieux et que le caprice et la coquetterie n'eussent fait jusqu'alors qu'attendre l'occasion pour prendre la place de la candeur et de la simplicité. Se rappelant néanmoins la déclaration qu'il avait été forcé de faire à Claire, il pensa que si Camilla en avait été instruite, le ressentiment avait pu lui inspirer cette conduite. Cependant, même en ce cas, sa manière de le manifester était inquiétante et faite pour alarmer. Il se rappela, avec un nouveau mécontentement, la société légère et dissipée qu'elle voyait depuis peu, et qui, par la franchise de son esprit et la facilité de son caractère, pouvait si aisément souiller la pureté de son âme. Il fut tenté d'avertir M. Tyrold qu'il était convenable qu'elle interrompît ses liaisons jusqu'à ce qu'elle pût les suivre sous l'œil vigilant et protecteur de sa mère. Mais il lui vint ensuite à l'esprit que peut-être le major lui plairait. Quelque sérieuses que fussent ses vues, il ne les avait jamais déclarées, tandis que celles du major paraissaient s'annoncer sans réserve. Il résolut d'éclaircir ce soupçon avant de prendre pour lui-même aucune résolution. Lui parler ouvertement lui parut la manière la plus franche et la plus convenable. Il s'y décida. D'abord, il fallait faire des recherches sur la position du major. Puis, si Camilla le voulait écouter, lui présenter le résultat de ses informations, bien sûr de juger de l'état de son cœur par la manière dont elle écouterait les premiers mots de cet entretien. Cependant, Camilla se trouvait un peu consolée par l'effort qu'elle avait fait et par l'idée qu'Edgar en aurait conçu plus de respect pour elle. Le lendemain matin, Sir Hugh envoya prier Camilla de venir passer la journée seulement avec sa sœur Eugénia et d'employer pour l'amuser toute son amabilité. Eugénia était revenue la veille, accablée de mélancolie, et depuis, elle avait toujours été triste, refusant de sortir de sa chambre, même pour les repas, et cependant ne donnant point de raison de sa conduite. Il ne pouvait concevoir ce qui lui était arrivé, mais son cœur était déchiré de la voir en cet état. Car jusqu'alors, disait-il, elle avait toujours été douce et gaie, quoique très savante. Camilla la trouva sombre, morne, assise dans un coin de sa chambre dont elle avait fermé tous les volets. Elle essaya de la ranimer par toutes les expressions d'une tendre amitié. Mais Eugénia secouait la tête et paraissait enfoncée dans une méditation profonde. Elles avaient ainsi passé plus d'une heure seules, Sir Hugh ayant absolument défendu qu'on les troublât, lorsqu'enfin Camilla hasarda de dire à sa sœur « Est-il possible, ma chère Eugénia, que l'insolence de quelque femme grossière puisse à ce point vous affecter ?» Eugénia, levant la tête, répondit avec un peu de véhémence « « Épargnez-moi cette question, Camilla. Moi, je vous épargnerai mes reproches. »« Et quels reproches, chère sœur ? » s'écria Camilla. « Quels reproches ?»« Le reproche, reprit-elle très sérieusement, que mérite de moi toute ma famille pour m'avoir dit sans cesse que des milliers de gens me ressemblaient, pour m'avoir assuré que je n'avais rien d'extraordinaire, pour m'avoir élevée dans une entière ignorance sur mes malheureux défauts naturels et m'avoir laissé, sans précaution, entrer dans le monde pour en être la risée. Elle voulut alors s'enfermer dans son cabinet, mais Camilla, retenant la porte et se mettant presque à genoux pour obtenir d'être entendue, la conjura de bannir de son esprit ses cruelles idées et de traiter avec mépris les insultes qu'elle avait reçues. « Camilla, dit-elle avec fermeté, qu'on ne prétende plus m'en imposer. Je ne présenterai plus au grand jour une figure difforme et des traits hideux. Je veux fuir tout le genre humain et finir ma triste destinée dans quelque solitude. » Camilla la conjura de ne pas former un plan semblable et fit valoir, avec l'affection la plus touchante, le tendre amour qu'avait pour elle toute sa famille. « Ce ne sont pas ces femmes, dit-elle tranquillement, qu'il faut blâmer. Elles ont été grossières, mais vraies. Elles ne m'ont dit que des vérités qu'il aurait fallu me dire dès mon enfance. Mon aveuglement était une sottise. Le voilà dissipé. Laissez-moi, Camilla, avertissez mon oncle que je le prie de me chercher une retraite. Dites à mon père tout ce qui s'est passé. J'écrirai moi-même à ma mère, et lorsque mon esprit sera plus tranquille, lorsque je pourrai sincèrement et sans regret vous pardonner de tout mon cœur, je pourrai consentir à vous revoir. » Elle insista d'une manière positive pour qu'on la laissât seule. Camilla se tint à la porte en suppliant pour que sa sœur voulût bien la laisser entrer. Elle continua vainement jusqu'au second coup de la cloche du dîner. Elle pria très instamment sa sœur de lui parler encore. Eugénia, sans ouvrir, répondit « Je vous ai donné ma commission, je persiste. » Ne pouvant rien obtenir de plus, elle descendit tristement. Mais elle n'entendit pas plus tôt la voix de son oncle dans la salle à manger que, ne pouvant se résoudre à lui porter cette affligeante nouvelle, elle remonta vite l'escalier et, se jetant à terre devant la porte de sa sœur, elle lui cria « Eugénia, je n'ose vous obéir. Voulez-vous tuer mon pauvre oncle, mon oncle qui nous aime tous si tendrement? Voudriez-vous l'affliger, le rendre malheureux ?»« Non, non, pour le monde entier !» répondit-elle en ouvrant sa porte. Et puis, avec plus de douceur, « Je sais, dit-elle en la regardant, que vous êtes tous trop bons. Je sais que vous avez cru bien faire. Je sens qu'il faudrait être un monstre pour ne vous pas aimer à cause de cette erreur même dont je suis la victime. Je vous pardonne donc à tous et je rougis d'avoir senti contre vous de la colère. Mais cependant, à 15 ans, à l'instant d'entrer dans le monde, sur le point de former une liaison qui... Ah, Camilla, quel temps, quel moment pour découvrir, pour apprendre que je ne peux me faire voir à personne sans être un objet de raillerie. » Ici, la voix lui manqua tout à fait, et courant vers la fenêtre, elle s'enveloppa dans le rideau en criant « Ah, cachez-moi, cachez-moi de grâce, à tous les yeux, à tout ce qui respire. Ne me poursuivez pas, ne me persécutez pas plus longtemps, laissez-moi me cacher jusqu'à ce que mon courage ait repris assez de force pour supporter ma destinée. » Une impatience de la part d'Eugénia était une chose trop rare pour qu'on la contrariât, et Camilla, malgré son extrême jeunesse, la respectait autant qu'elle la chérissait. Camilla ne cherchait qu'à l'apaiser par sa complaisance. Après un embrassement qui ne fut ni repoussé ni partagé, elle la quitta et descendit dans la salle à manger. Sir Hugues fut très mécontent de la voir sans sa sœur, mais elle évita de rendre compte de sa commission jusqu'à ce que le repas fût fini. Après le dîner, elle prit son oncle à part et lui découvrit par degrés la source du chagrin d'Eugénia. Sir Hugues en fut accablé. Tous les reproches qu'il s'était faits sur des mots, dont malheureusement il avait été la cause, se réveillèrent avec une nouvelle amertume. Loin de s'opposer à son plan de retraite, il chargea Camilla de lui donner le choix de la demeure qu'elle voudrait et de lui dire qu'étant la cause de son malheur, il ne se montrerait plus à ses yeux. Elle avait ordre d'ajouter qu'il lui donnerait la jouissance immédiate et la disposition de tout son bien, si cela pouvait la satisfaire davantage que d'attendre pour en jouir qu'il fût mort. Eugénia n'eut pas plutôt reçu ce message qu'oubliant tout sentiment de colère, elle se hâta de descendre et se jetant aux pieds de son oncle, elle lui demanda pardon de son dessein et lui promit de ne jamais le quitter tant qu'elle vivrait. Sir Hugues, en l'embrassant avec tendresse, lui dit « Vous êtes trop bonne, ma chère enfant, beaucoup trop bonne pour quelqu'un qui vous a si maltraitée dans un temps où vous étiez trop jeune pour vous défendre. Je n'ai rien à dire en ma faveur, et tout ce que je peux espérer, c'est que vous voudrez bien me pardonner à cause de mon ignorance. » « Hélas, mon cher oncle, je ne dois à vos intentions que la plus vive reconnaissance et je vous en offre le tribut du fond de mon cœur. Tout ce que je regrette, c'est que personne n'ait eu la bonté de m'avertir de mon malheur. » « Ma chère fille, répondit-il les larmes aux yeux, je vois qu'après vous avoir fait un mal, je vous en ai fait un autre, car on a tout fait par mon ordre, et je dois l'avouer, pour rendre justice à votre père, à votre mère, à vos frères et sœurs, aux domestiques. » Dieu m'est témoin que si j'ai déjà de grands torts, je n'ai pas du moins celui de les nier. » À son tour, Eugénie tâcha de le consoler. Elle lui promit de rester, comme à l'ordinaire, avec toute sa famille, et demanda seulement qu'il lui fût permis de ne point sortir et de ne point voir d'étrangers. « Vous ferez, ma chère, tout ce que vous jugerez à propos, et c'est la moindre chose que vous puissiez attendre de moi après le pardon que vous avez eu la bonté de m'accorder. » Je ne serai plus, j'espère, dans le cas de vous en demander d'autres, me proposant de prendre en toute chose la vie de mon frère. Et plût à Dieu que je l'eusse fait plus tôt, cela m'aurait épargné mes plus grandes fautes. Car je n'ai pas mieux traité la pauvre Camilla à cela près de cette malheureuse chute et de la petite Vérole. Mais ne me haïssez pas pour cela, mes chers enfants, si vous pouvez vous en empêcher. Car ce ne fut pas faute de tendresse pour vous, mais uniquement faute de mieux savoir la diriger. Ce que vous excuserez, j'espère, en le mettant sur le compte de ma mauvaise éducation. « Oh, mon oncle !» s'écria Camilla en serrant son oncle dans ses bras, tandis qu'Eugénia lui embrassait les genoux. « Quel discours pour des nièces qui doivent tout à votre bonté !» Les deux sœurs, par une vertueuse émulation, lui donnèrent à l'envie des témoignages de l'affection la plus tendre, jusqu'à ce qu'il fût un peu consolé. Le reste du jour ne fut troublé qu'un moment. Miss Margland ayant proposé de faire une partie aux courses de Middleton, Sir Hugh répondit qu'il était juste de ne pas refuser ce plaisir à Eugénia après la conduite généreuse qu'elle avait tenue. Une sombre tristesse se répandit sur son visage. Elle désira ne plus entendre parler de courses, ni d'aucune autre promenade, publique ou particulière, dans la résolution qu'elle avait prise de passer à la maison tout le reste de sa vie. Son oncle l'assura qu'elle serait en tout sa maîtresse. Camilla les quitta le soir avec promesse de revenir le lendemain. Elle oubliait ses propres inquiétudes pour ne s'occuper que de sa sœur. Cependant, elle revint à d'autres pensées lorsqu'à l'aide du peu de jours qu'il faisait encore, elle aperçut Edgar à cheval s'approchant de la portière. Il avait consacré sa journée tout entière à prendre des informations relatives au major. Il avait su de Mistress Albery que c'était un homme à la mode mais peu riche. Et par le jeune enseigne, il avait appris que cette mince fortune était à peu près dissipée et que la terre sur laquelle elle était établie se trouvait engagée pour 300 livres sterling au paiement de certaines dettes d'honneur. Edgar avait appris que Camilla était à Clèves. Il avait pris le parti de se promener à cheval sur la route jusqu'à ce qu'il rencontrât la voiture de Sir Hugh, persuadé qu'il ne pouvait pas avoir une meilleure occasion de trouver Camilla seule. Cependant, la voiture s'étant arrêtée lorsqu'il s'en fut approché, il éprouva tout à coup un embarras auquel il ne s'était pas attendu. Il demanda des nouvelles de toutes les personnes de la famille l'une après l'autre. Puis, frappé de la froideur des réponses, il laissa la voiture continuer son chemin. Confondu de s'être ainsi laissé déconcerter, il resta pendant une ou deux minutes au même endroit, puis il se remit à galoper après la voiture et reparut à la portière. Il s'excusa sur ce qui l'arrêtait une seconde fois. « Mais je crois, dit-il, que quelque génie s'est aujourd'hui emparé de moi. J'ai commencé ma journée par une entreprise digne de Don Quichotte et il me paraît que je dois la finir en chevalier errant. » Il se tut, mais elle ne répondit rien. À son aspect, le premier sentiment avait été la colère. Lorsqu'elle vit qu'il avait à lui dire quelque chose qu'il avait peine à commencer, la curiosité s'éveilla. Elle attendit avec inquiétude qu'il s'expliquât. Je sais, reprit-il en hésitant beaucoup, que donner un conseil et donner du chagrin, c'est ordinairement la même chose. Je ne veux donc pas. Je n'ai pas intention. Son embarras et le souvenir de cette conversation désarmèrent Camilla. Elle baissa les yeux, mais son maintien exprimait la sensibilité. Edgar, recouvrant la voix, voulut poursuivre. Mais, perdu dans une foule d'expressions vagues, il se tut encore, et Camilla, levant les yeux, le regardait avec étonnement. Enfin, il dit en tremblant que l'admiration dont faisait publiquement profession pour elle un homme de sa société l'avait portée par un intérêt vil à faire quelques recherches sur sa fortune et ses espérances. Elles se sont trouvées, ajouta-t-il, non pas très élevées, ni même égales à ce que. Cependant, elles sont telles qu'avec le secours actuel de quelque ami, surtout avec une économie soutenue pour l'avenir, elles pourraient s'améliorer. Et quant à ses secours actuels, M. Tyrold a des droits que je mettrai mon bonheur et ma gloire à lui envier si. Ceci s'échappa mal articulé, mais il ajouta « Je ferai quelques recherches ultérieures avant que de hasarder de vous en dire davantage. » « C'est donc pour vous, monsieur, que vous les ferez, et non pour moi, lui dit-elle, car quelle que soit la personne dont vous me parlez, elle m'est absolument indifférente. » Un éclair de plaisir à ces mots rayonna dans les yeux d'Edgar sans qu'il s'en doutât. Il la remercia presque. Il abandonnait presque la bride de son cheval pour lui prendre les mains. Mais, trop occupé de ses propres sentiments pour faire attention aux siens, ou pour attendre aucune réponse, elle lui souhaita froidement le bonsoir et pressa le cocher d'aller à la maison. Edgar, cependant, était un peu plus heureux. « Il est absolument indifférent à Camilla, se disait-il. Cette préférence pour lui n'était qu'une feinte, et c'est pour moi peut-être qu'elle a faim. » Mais le plaisir que lui donna cette pensée ne dura pas longtemps. « Ah, Camilla, ajouta-t-il, si réellement je peux espérer de vous quelque retour, pourquoi feindre ? Combien le chemin pour arriver à mon cœur vous serait aisé, droit et facile, si vous vouliez tout simplement le suivre ?»